3 jusqu'au verset, donc il était question de la tentation de Jésus dans le désert. Voilà, donc là c'est mieux. Donc c'était la préparation du ministère public de Jésus avec donc le premier verset qui donne le titre de l'évangile. Et puis également donc le ministère de Jean-Baptiste, donc le baptême de Jésus, la tentation de Jésus dans le désert. Et là, si on a le temps et du voulant, on y reviendra un petit peu juste sur ce petit dé. Mais maintenant, on va attaquer donc une partie. Et cette partie de Marc, on pourrait diviser en fait l'évangile de Marc en deux grandes parties. Jusqu'au chapitre 8, à peu près vers le verset 30, c'est vraiment la description du service du Seigneur. Et on le voit auprès de personnes qui fait du bien, etc. Il y a quelques enseignements, notamment en parabole, en particulier fin du chapitre 3, puis chapitre 4, mais c'est quand même très très succinct. Et ensuite, la deuxième partie, il va vraiment, Marc va davantage diriger nos regards sur le sacrifice de Jésus. Et Jésus va annoncer son sacrifice à plusieurs reprises et va l'expliquer à ses disciples. Et bien sûr, après, on a bien sûr le sacrifice, la résurrection, etc. Donc, il y a deux parties. On pourrait diviser cet évangile en deux parties. Et ici, on va donc commencer par donc le service proprement dit. On va dire que la préparation du Seigneur, et la préparation du Seigneur, c'est pas pour lui, hein, c'est pour nous, hein, surtout. Elle est terminée donc avec la tentation dans le désert. Et maintenant, donc, ça va être... Et j'ai intitulé ça « Le parfait serviteur à l'œuvre ». Et on va voir donc du verset 14 jusqu'au chapitre 3, verset 6. Ça paraît très ambitieux. Il aurait fallu avoir un soir et demi pour faire ça minimum, mais voire deux soirs. Donc ce que l'on va faire, on n'a pas trop le choix, c'est qu'on va faire des survols, simplement, et juste prendre certaines idées de tous ces thèmes. Alors, pourquoi on peut le faire? Parce qu'après, on va les retrouver tout au long de l'évangile, et en particulier on va les retrouver jusqu'au chapitre 8, et donc on pourra en reparler de façon un petit peu plus approfondie. Mais là donc ça va être un petit peu rapide, mais bon voilà, il n'y a pas trop le choix de faire autrement. Alors, j'ai mis pas de points, 6 points en fait, et on va commencer au chapitre 1 et on va lire donc les versets 14 et 15. Donc si quelqu'un veut bien lire les versets 14 et 15, et j'ai intitulé ça « Le condensé du message du Seigneur ». Quelqu'un peut le lire, les versets ?
Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. »
Voilà, le temps est accompli. Je vous ai mis entre parenthèses aussi les références donc dans Matthieu et dans Luc, où nous trouvons aussi cette parole de Jésus. Et juste quelques réflexions. D'abord, Jean-Baptiste vient d'être mis en prison, et ça aussi on va le revoir plus tard, hein, lorsque ce sera donc détaillé dans quelques chapitres. Jésus, il aurait pu très bien se méfier, hein, se dire « Oh là là, c'est pas évident, hein, donc je fais un petit peu profil bas. » Mais non, on voit Jésus qui va annoncer avec force que eh bien, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu s'est approché et le temps est accompli. Et bien sûr, hein, on sait que c'est le Sauveur. Et ça me faisait penser un petit peu à ce qu'il disait lorsque, voilà, hein, il est là pour cela. Et donc il ne va pas, hein, Isaïe nous le décrit comme étant le serviteur habitué à la souffrance, méprisé, et il ne va pas faire machine arrière, faire profil bas pour essayer d'éviter la souffrance. Mais non, il est là et il accomplit pleinement sa mission, et avec vraiment beaucoup de force, il va donc prêcher, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et il va donc lui aussi annoncer la repentance, comme l'avait fait Jean-Baptiste auparavant. Et voyez-vous, cette parole, on va la retrouver donc dans les autres évangiles, avec les références que je vous ai données. Mais ici, il y a quelque chose qui vient en plus. Jésus va dire « croyez à la bonne nouvelle ». Et le terme qui est utilisé, « croyez », c'est un terme à l'origine, c'est la même chose que « foi ». Donc voilà, ayez foi en la bonne nouvelle. Et il va donc annoncer le royaume de Dieu qui est proche. On y reviendra, le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait dire, pour schématiser, que en fait les évangiles, c'est la proclamation du royaume de Dieu. Et, ou du royaume des cieux, comme on va trouver plutôt dans Matthieu. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est là. Voilà. L'évangile, c'est la proclamation du royaume de Dieu. Et à plusieurs reprises, Jésus va dire, mais voilà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. En parlant, bien sûr, de lui-même. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Il va dire, le temps est accompli. Et je vous ai mis cette référence dans Galates, au chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps est accompli. Et là, quand on met ça en parallèle avec le royaume de Dieu, donc c'est Dieu qui règne, on voit vraiment qu'il est aux commandes. Et c'est que quand le temps est arrivé, que Jésus est là. Donc il n'y a rien qui arrive comme cela de façon fortuite ou au hasard, etc. Non, on voit vraiment que c'est un plan divin qui s'accomplit. Le temps est accompli. Et je crois que pour nous, c'est vraiment encourageant encore aujourd'hui, et on l'a dit aussi la dernière fois, de savoir que voilà, toutes choses sont dans les mains de notre Dieu, parce qu'il est celui qui règne, et les temps s'accomplissent. Et donc, on parlait là tout à l'heure que, paraît-il qu'aujourd'hui, hein, pour X raisons, ça, c'est la journée de l'enlèvement de l'Église. Bon, moi je disais, tiens, ils savent donc le temps et le moment. Mais, peu importe, on n'a pas à s'en inquiéter, les temps sont dans les mains de notre Dieu. Et il est vraiment celui qui est souverain, qui domine toute chose. Il est celui qui règne. Il est vraiment celui qui règne. Et il parle donc de repentance et de foi. Et ça, c'est vraiment la réponse à l'Évangile, à la prédication de l'Évangile. Quand on invite Jésus dans sa vie, bien sûr, on se repent et on choisit de croire dans son message. Mais aussi pour le chrétien, chaque jour, on a à se repentir et vraiment à se confier dans ce qu'il nous dit. Ça devient finalement un mode de vie. Donc voilà, on va continuer et on passe donc alors à une grande section qui va du verset 14 jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Et donc là, le deuxième point, ça va être l'appel des premiers disciples. Est-ce que quelqu'un veut lire les versets des versets 16 au verset 20?
Quand il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, fils frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.
Voilà, merci. Alors, si on lit ce récit, ce passage dans les autres évangiles, on a d'autres, il y a des détails qui nous sont donnés, on apprend aussi beaucoup de choses. Par exemple, on voit que c'était donc pour certains déjà des disciples de Jean-Baptiste. On sait aussi l'épisode de la pêche miraculeuse, avec donc le bateau qui est enfoncé. Voilà, donc c'est à ce moment-là. Ici, en fait, Marc va vraiment mettre l'accent sur Jésus, c'est le serviteur, le parfait serviteur. Et ceux qui le suivent vont aussi rentrer dans cette dynamique et seront eux aussi des serviteurs. Il va donc tracer vraiment le plan de ce service. Et je trouve que là, c'est vraiment important aussi de remarquer cela. Parce qu'on est au service de notre Seigneur, mais il y a quand même des choses qui nous rassurent. Et regardez, d'abord, ce que l'on voit, c'est que quand Jésus les appelle, aussitôt, ils laissent tout et ils vont le suivre. Donc il y a une rupture avec le passé. Et on ne va pas s'embarrasser des choses du passé. Voilà. C'est le Seigneur qui prend toute la place et qui prend tout dans notre vie. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Après, le suivre, c'est bien, mais ça peut faire peur. Être pêcheur d'homme, on est tous appelés finalement à être pêcheur d'homme. Mais ça peut faire peur. Mais regardez ce que dit Jésus, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. C'est donc son œuvre. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est son œuvre, c'est vraiment lui qui va accomplir cela. Et je vous ai mis une référence dans Actes au chapitre 1 et au verset 8. lorsque Jésus va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui est en nous et qui nous permet d'agir et de suivre notre Seigneur. Voilà. Et également, verset 4 d'Actes, je ne sais pas si je vous lis, mais non. Verset 4, chapitre 4, verset 13, lorsque Pierre et Jean sont confrontés aux autorités, il nous est dit qu'ils sont étonnés de les entendre parler, parce que ce sont des gens simples, sans instruction. Et ils sont obligés de reconnaître qu'ils étaient avec le Christ. Voyez. Donc c'est vraiment l'œuvre du Christ qui s'accomplit dans la vie des disciples, et il en est de même aujourd'hui aussi pour nous. Et puis juste une petite réflexion aussi, l'appel de ses disciples, donc deux fois deux frères, on ne doit pas le confondre aussi avec l'appel que l'on verra dans le chapitre 3, Dieu voulant dans un mois, où là, Jésus va prendre ses disciples et il va en choisir certains qui seront les apôtres, avec un A majuscule. Donc, chargé ensuite de répandre son message. Donc, il va les choisir pour un ministère particulier. Et il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dans ce cadre-là. Par contre, ici, c'est un appel général à le suivre. Et nous sommes tous appelés à suivre le Seigneur. Et ensuite, c'est lui, dans sa souveraineté, qui va nous permettre d'être dans un ministère ou dans un autre, selon sa sagesse, avec des dons particuliers, selon ce que lui aura voulu pour l'avancement de son règne. Donc ici, c'est bien l'appel à le suivre à lui en tant que disciple, différent donc de ce que nous verrons dans le chapitre 3 de Marc. Et puis, donc même si on peut faire un petit résumé, en fait, on voit que toute leur vie a été chamboulée. Ils ne posent pas des conditions au Seigneur. Ils ne lui disent pas, bon, attends, il y a ceci, il y a cela, on va finir de ramener le filet, on va arranger le filet, etc. Non, non, ils se lèvent, ils suivent Jésus. Ils acceptent l'autorité de Jésus. Et on va voir tout au long de leur vie, avec des hauts et des bas, bien sûr, que c'est cette autorité qui va prévaloir dans leur vie. Et je me dis, c'est important pour nous aussi de remarquer cela. Et souvent, on va parler de l'autorité de Jésus, de son royaume, mais comment règne-t-il dans nos vies? Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important aussi de régulièrement se poser cette question. Comment, Seigneur, ton règne impacte finalement mon quotidien? Alors on avance, vous voyez, on va quand même relativement vite. Et on va donc prendre maintenant les versets 21 à 28. Et là aussi, si quelqu'un veut bien lire les versets 21 à 28.
Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi. » Et sort de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.
Voilà. Alors juste quelques réflexions ici. Donc on est à Capernaum et on va voir que Jésus va faire beaucoup de miracles dans cette ville. Donc on le voit là, on le verra aussi plus tard. Et donc les habitants sont témoins de cela. Et en fait, ils ont donc vraiment... Jésus leur donne beaucoup. Et il va dire, je vous l'ai peut-être mis ici, ou dans Matthieu, chapitre 11, versets 23 et 24, il va dire, parlant de cette ville, Capernaum, eh bien, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et dans Gomorre, il y a longtemps que ces villes se seraient repenties. C'est pour ça même, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront jugés moins rigoureusement que toi. Et donc, déjà là, on voit vraiment que voilà, le Seigneur annonce le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais c'est bien sûr le cœur de chacun qui est touché. Et malheureusement, malgré tous les miracles qui seront faits dans cette ville, eh bien cette ville choisira dans sa grande majorité de la rejeter. Bon, ce qu'il y a de beau, c'est que rien n'empêche le Sauveur quand même d'offrir sa grâce à tous. Et ce que l'on voit aussi, une autre remarque que je voudrais partager avec vous, c'est que le Seigneur va d'abord rentrer dans la synagogue. Et il va donc, souvent, on va le trouver dans les synagogues, etc. Et c'est un principe que l'on va retrouver dans beaucoup de situations, dans les évangiles. Et on peut le mettre en parallèle avec Matthieu, au chapitre 10, versets 5 à 7, que je vous lis. Donc il va choisir les 12 et puis il va les envoyer. Et après leur avoir donné les instructions suivantes, « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voyez ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait appliquer ce verset à nous ? Bon, déjà, on se dirait, bon, nous, on est quand même des païens. Hein. Comment on pourrait le comprendre aujourd'hui, ce verset ? Et pourquoi Jésus donne cet ordre qui paraît quand même étrange de se contenter d'annoncer l'évangile aux juifs et non pas aux païens et aux samaritains ?
Parce qu'ils avaient déjà une connaissance des textes.
Oui, mais bon, on pourrait se dire, oui, ils ont une connaissance des textes, mais les pauvres. On pourrait le mettre aussi en parallèle avec cette femme qui est syrophénicienne, dont la fille est malade, qui vient demander à Jésus de guérir sa fille, et le Seigneur va lui dire, mais non, il n'est pas bien de prendre le pain pour le donner au petit chien. Donc c'est même dur, hein. Et elle va dire, mais des miettes, ça me suffit. Les petits chiens, les miettes, ça leur suffit. Et à cause de cette grande foi, le Seigneur va guérir sa fille. Mais pourquoi d'abord ? Mais en fait, c'est simple. Parce qu'il faut... Alors, on peut le mettre aussi en parallèle avec Jean, chapitre 1. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il fallait d'abord que Jésus soit rejeté par son peuple, pour qu'ensuite la bonne nouvelle se répande aux nations. Donc ça aussi, ça faisait partie du plan de Dieu. Et on va trouver au départ Jésus, souvent avec ce schéma, il va annoncer aux Juifs prioritairement la bonne nouvelle. Et ensuite, quand il sera rejeté, eh bien cette bonne nouvelle va être annoncée également aux païens. Donc je vous l'avais même mis, hein, Jean chapitre 1, verset 11. Et puis également, on se rend compte que, et on le verra maintes et maintes reprises, on y reviendra, lorsque Jésus annonce la bonne nouvelle, le diable ne reste pas inactif. Et on verra très très souvent bien des personnes possédées qui viendront vers lui. Et il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Bon, déjà, on peut dire que partout où le Seigneur agit, l'ennemi essaie de détruire. Et ça, c'est encore une réalité aujourd'hui. Toute l'œuvre que le Seigneur accomplit, si l'ennemi peut la détruire, il ne va pas se gêner pour le faire. Ça, c'est une première chose. On voit aussi que quand le Seigneur est là, eh bien, l'ennemi est démasqué. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est important. Le camouflage que l'ennemi va utiliser, le Seigneur va l'ôter. Et puis dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et puis, autre chose aussi intéressante, c'est les esprits impurs savent qui est Jésus. On l'a lu ici. Hein. Je sais qui tu es. Hein. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et plus tard, Jésus posera cette question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis ? Et puis les réponses ne sont pas satisfaisantes. Et Pierre va dire, mais oui, tu es le Messie. Et Jésus va dire, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Là, les puissances ennemies savent qui il est. Donc c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, mais on voit qu'elles sont dans la crainte. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ici ? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Et on va le retrouver ça à plusieurs reprises aussi, où on voit cette crainte des puissances démoniaques quand elles sont confrontées au Fils de Dieu. Et c'est quelque chose qui est encourageant pour nous aussi, de toute façon, parce qu'on sait que l'ennemi a été vaincu à la croix du calvaire et qu'il ne peut rien contre la volonté de Dieu. Mais malgré tout, on a aussi quand même à être prudent. Là encore, on y reviendra, mais juste, on ne va pas le lire, mais je vous cite juste cette référence que vous connaissez très très bien dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20, où l'apôtre va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Et donc c'est pour cela, prenez toutes les armes, hein, de Dieu, prenez à vos reins, mettez la vérité pour ceinture, le casque du salut, etc. Vous connaissez cela, hein. Et on a quand même vraiment intérêt bien, à méditer ce passage, voilà, et à le mettre en application aussi. Voilà donc pour ce passage avec cet esprit impur. Et on avance et on va voir aussi que Jésus donc, va aussi manifester son autorité par des guérisons, notamment toujours dans cette ville de Capernaum. Et là donc on est au verset 29 jusqu'au verset 45. Donc si quelqu'un veut bien lire ces versets.
En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permetta pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Jusqu'à 40
Oui, 45, jusqu'à la fin du jour.
Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à le divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts.
Voilà, merci Olivier, c'est une longue lecture. Hein. Et alors bon, juste une petite réflexion, déjà on voit la belle-mère de Simon, donc Simon c'est Pierre, hein. Donc ça prouve que Simon était, ou Pierre était marié, ça on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 5, hein. Donc si quelqu'un vous dit oui, mais voilà, Pierre c'était le premier pape, etc., vous dites, bon, déjà il était marié. Voilà, hein. Et puis, alors moi ce que j'aime beaucoup c'est de voir Jésus, vraiment, il va prendre par la main la belle-mère de Pierre qui est malade. Et c'est, moi, je trouve que c'est vraiment touchant. Il est le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mais on voit vraiment sa compassion, son amour. Et ça, on le remarquera à plusieurs reprises, même avec le lépreux aussi, à plusieurs reprises dans l'Évangile, où vraiment, il est proche de ceux qu'il va côtoyer. Et on voit vraiment voilà, sa compassion. Et ça, vraiment, sa compassion pour ceux qui sont dans la souffrance. Autre chose aussi remarquable, c'est que dès qu'elle est guérie, elle va le servir. Alors ici, il est dit qu'elle va servir Jésus. Ailleurs, on va voir qu'elle les sert. Elle sert aussi les disciples. Et dans Marc, au chapitre 9, verset 35, Jésus va enseigner ses disciples. Il va leur dire, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et voilà vraiment cette voie que Marc nous montre et qui est vraiment précieuse pour nous aussi, pour nous montrer que oui, nous aimons le Seigneur, nous voulons être à son service, et donc nous sommes au service de nos frères et sœurs. C'est vraiment la voie qui est enseignée, en particulier dans cet évangile de Marc. Nous sommes au service du Seigneur en étant au service de nos frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment mis en avant à maintes et maintes reprises dans cet évangile. Et Jésus est celui qui donne l'exemple, En plus, Jésus est vraiment celui qui donne l'exemple. Et on le voit, parce que qu'est-ce qu'on a lu ici ? C'est que donc il va faire énormément de guérisons. Tous viennent là, il fait énormément de guérisons. Et il nous a dit le soir après le coucher du soleil. Et pour les Juifs, dès que le soir était tombé, c'était le lendemain en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et donc Jésus continue à être au service de tous, jusque tard dans la nuit. Donc une grosse journée. Et on va dire, bon, le lendemain, il va faire la grasse matinée. Et non, pas du tout, on voit qu'il va se lever pour prier. Il a encore l'importance de la vie de prière. Et pour nous, quel exemple aussi, si le Fils de Dieu a cette habitude, cette discipline, cette attitude-là, combien nous aussi, nous devons considérer combien est importante la vie de prière, que ce soit une vie de prière en Église, mais aussi la vie de prière pour chacun d'entre nous. Voilà, passer du temps vraiment dans la prière, à intercéder pour l'œuvre de Dieu, à remercier notre Seigneur. Jésus, il nous montre l'exemple là aussi. Lui, le parfait serviteur. Et donc, on voit que les disciples viennent le chercher. Voilà, il y a tous te cherchent. Donc, eux, l'idée, on retourne à Capernaum parce que là, il y a encore de quoi faire. Et Jésus, ben, il va les étonner parce qu'il va dire, ben, allons ailleurs. Parce que ailleurs aussi, il faut que j'annonce l'évangile. Voilà. Et les gens, on peut supposer que Capernaum, ils sont là parce qu'ils veulent les guérisons. Mais le message de Jésus va au-delà des guérisons. C'est vraiment un message qui impacte la vie éternelle, donc qui dépasse de combien la vie ici-bas. Et donc voilà, c'est son message, le royaume des cieux qui s'est approché. On voit aussi que donc il va guérir ce lépreux. Alors les lépreux, ils vivaient exclus, ils étaient rejetés de la société. Dans Lévitique au chapitre 13, on va le voir, mais ailleurs aussi. Ils étaient craints parce que, ben, on se disait, c'est contagieux, donc si on les côtoie, on va nous aussi finir comme eux. Et Jésus est ici ému de compassion. Il est vraiment sensible à la souffrance de cet homme, et alors qu'il ne faut pas le faire, lui, il va toucher ce lépreux. Et là encore, on voit vraiment combien ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous parler, cette compassion de Jésus pour cet homme. Et puis, il va lui demander quelque chose de précis. N'en parle à personne. Mais finalement, fais ce que la loi demande. Voilà. Voilà les consignes que Jésus va donner à cet homme. Et comment vous trouvez la réaction de cet homme qui, lui, va au contraire divulguer. Venez voir, hein, regardez ce que Jésus a fait pour moi. On pourrait se dire, bon, c'est une bonne chose.
Il fait de l'évangélisation.
Oui, on dit, il fait de l'évangélisation. Sauf que c'est pas ce que Jésus lui a demandé. Jésus lui a demandé quelque chose de totalement différent. Donc en fait, cet homme qui a été guéri de façon miraculeuse, au lieu de considérer la parole de celui qui l'a guéri, il va considérer son propre raisonnement. Et il va agir en fonction de son propre raisonnement. Et combien cela est triste. Et combien cela nous montre aussi que finalement, lorsque le cœur ne veut pas être touché par la parole de Dieu, il peut y avoir tous les miracles que l'on veut. Le cœur reste froid. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme, même si on a l'impression au départ que non. Mais en fait, non. Il n'a pas honoré la parole du Seigneur. Et par sa désobéissance, finalement, il a causé des difficultés au Seigneur. Parce que qu'est-ce qui se passait ? C'est que tous, encore plus, voulaient le faire au roi. Et regardez dans Jean, chapitre 6, verset 15, il y a quelque chose qui se passe aussi de similaire. Et il nous est dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Parce que ce n'était pas son but. Le peuple voulait, oui, quelqu'un qui va nous guérir, qui va chasser les démons, qui va nous nourrir aussi. Mais tranquille, comme ça, là, vraiment, c'est quoi de mieux hein, voilà. Il n'y a rien de mieux. Mais non, ça, c'est une vue terrestre. Alors que le Seigneur, son message dépassait ô combien ces simples intérêts terrestres, va-t-on dire. Et cet homme, eh bien, voilà, par sa désobéissance, il va créer des difficultés au Seigneur Jésus. Combien cela est triste alors qu'il vient d'être guéri. Alors, on va continuer, puis on va lire dans le chapitre 2 maintenant, et les 12 premiers versets, où là, Jésus va de nouveau affirmer que oui, il est véritablement le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même. Donc là aussi, si quelqu'un peut lire ces 12 premiers versets.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit de devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
Bon, voilà. Alors, vous connaissez ce passage. Bon, un homme qui est donc paralysé, qui ne peut pas bouger, qui est sur son lit. Et déjà, on voit qu'il a quand même des amis qui sont là, qui tiennent à lui et qui veulent absolument l'amener vers Jésus. Et ça, c'est important. Quelque part, ça peut être aussi une image pour nous, qui peut nous parler, parce que bon, peut-être que nous avons des amis qui sont spirituellement parlant tétraplégiques, aussi paralysés. Et quel est notre enthousiasme pour les amener au prix du Seigneur ? Donc c'est déjà une première chose, une première réflexion à ce niveau-là. Ils vont découvrir le tour de la maison. Et moi, là, je me mets à la place du propriétaire. Je me dis, mais si j'avais été à sa place, comment j'aurais réagi ? Moi, je pense que j'aurais dit, bon, allez, c'est bon. Hein. On arrête tout, là, ils sont en train de bousiller la maison, donc allez, tout le monde dort. Hein. Voilà. Mais non. En tout cas, on ne sait rien de cet homme, on le saura au ciel sans doute. Mais apparemment, en tout cas, il n'a pas éjecté tout le monde, le Seigneur avec, puisque le Seigneur a pu guérir cet homme et puis même enseigner aussi à ce niveau-là. Donc là aussi, hein, c'est voilà, juste une petite réflexion. Et en constatant la foi de ces personnes, il va faire une déclaration qui surprend, et toujours avec tendresse. Hein. « mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc on voit là encore le parfait serviteur qu'il a pour vraiment ceux qu'il côtoie. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes connaissaient bien l'Ancien Testament, et ils savaient que il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors, il y a plusieurs références qui nous le disent. Je vous ai mis par exemple Ésaïe, chapitre 43, verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et puis, il y a aussi le psaume 103, verset 3, où il nous est dit, parlant de Dieu, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et les scribes, les pharisiens savaient cela. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Et ils ont tout de suite fait la relation entre les paroles de Jésus et ce qu'ils connaissaient de l'Ancien Testament, les textes qu'ils connaissaient. Et ils ne l'ont pas dit, sauf que Jésus a vu leur cœur. Et déjà ça aussi, je me mets à leur place, ça a quand même dû leur parler. Ça aurait dû leur parler en tout cas. Là aussi, je vous ai mis une référence dans Chroniques, chapitre 6, verset 30. Je vous le lis juste. « Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. » Seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et là, ils découvrent que Jésus connaît leurs pensées, connaît leur cœur. Ça aurait dû leur parler. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai que si pardonner, c'est une prérogative divine, bon, c'est facile à dire. Hein. Bon, voilà, tes péchés sont pardonnés, tout le monde peut le dire. Et donc Jésus va leur dire, ben voilà, puisque vous doutez, eh bien je vais vous montrer que oui, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et il va le faire donc en guérissant le paralytique. Et c'est ainsi qu'il va donner la preuve à tous. Donc voilà, il y a plusieurs jalons qui sont là pour montrer que oui, c'est véritablement le Fils de Dieu. Et malheureusement, on va voir qu'il y a un endurcissement dans le cœur de ces personnes-là. Et en parlant aussi de Fils de l'homme, Jésus va utiliser ici cette expression, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Là aussi, c'est encore une parole qui affirme sa divinité. Et dans Daniel, au chapitre 7, versets 13 et 14, il nous est parlé de quelqu'un qui est semblable à un Fils de l'homme, et c'est du Seigneur Jésus qu'il est question ici, et à qui on va donner la domination, la gloire, le règne. Voilà. Donc là aussi, pour les scribes et les pharisiens qui connaissaient bien les textes, c'était également une affirmation, oui, voilà, je suis le Fils de l'homme, donc je suis d'origine divine, je suis le Fils de Dieu. Et mais ils ont continué vraiment à endurcir leur cœur, et malheureusement, eh bien, ils vont ensuite aller de plus en plus loin dans cette direction, et on va voir aussi qu'ils vont après comploter pour le faire mourir. Alors, on va poursuivre, et donc là, on va arriver dans la dernière section, à partir du verset 13, et on va arriver jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Donc là encore, beaucoup de versets à lire, si quelqu'un veut le lire, ou si deux personnes veulent les lire, voilà, surtout n'hésitez pas. À partir du verset 13.
Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. »
On va s'arrêter là, parce que je vois qu'on a un quart d'heure, je l'avais aussi saucissonné, et on va normalement pouvoir le faire comme ça, même si ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc là, on est avec l'appel de Matthieu. Donc Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, il va s'appeler lui-même Matthieu le publicain. Et c'était un terme qui était un terme pour les Juifs, un terme infamant. C'est un petit peu comme si on disait, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, un collabo. Et voilà, c'était un petit peu ça. Ah oui, c'était ça. Parce qu'en fait, les publicains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récoltaient les taxes pour l'occupant. Et d'ailleurs, publicain, ça vient dans le grec, la racine, ça veut dire acheter. Donc quelqu'un qui est acheté, c'est quelqu'un qui est vendu. Voilà, on pourrait dire c'est un petit peu ça. Donc c'était voilà, c'était des vendus. Et d'ailleurs souvent, c'est associé publicain, gens de mauvaise vie, publicain et païen, publicain et prostitué, etc. Donc vraiment c'était des gens qui étaient méprisés. Et en plus ils récoltaient les taxes pour l'occupant, mais ils s'en mettaient aussi dans leur poche. Et ça, on le voit avec le passage dans Luc, lorsqu'ils viennent voir Jean-Baptiste, ils demandent « Mais que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste va leur dire « Mais ne prenez rien au-delà de ce qui vous a été demandé. » Donc arrêtez de vous mettre de l'argent dans les poches, voilà, et contentez-vous simplement de demander ce que l'occupant romain vous exige. Voilà. Donc voilà, ils étaient vraiment très très mal vus. Et bien sûr, les scribes, les pharisiens, qui étaient des bien-pensants, ils sont outrés de ce que Jésus est avec ce genre de personnage. Et je vous ai quand même mis dans Luc, au chapitre 15, ça il faudrait le lire. Si quelqu'un veut prendre Luc 15, versets 1 et 2. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut nous encourager. Le premier qui l'a peut le lire.
Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. »
Alors voilà, donc les collecteurs d'impôts, c'est les publicains. Cet individu s'attarde, toi tu as, peut-être que vous avez vous accueil. En fait, le terme qui est utilisé, on pourrait dire, il les attend, il les recueille. Voilà, il les reçoit, il les accepte. Il les accueille. Et moi, je trouve que c'est quand même un témoignage merveilleux que ces hommes qui critiquent le Seigneur vont quand même donner. Voilà. Il accueille les gens qui sont considérés comme étant de mauvaise vie. Et combien c'est quelque chose qui peut nous parler. Voilà, Jésus nous accueille. Et Jésus va dire, mais il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui est retrouvée que pour 99 autres qui n'ont pas, voilà, qui sont. Et il va dire ici, bien, cette, non, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pardon, j'ai mélangé plusieurs, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ici, il va dire la même chose, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. En quelque sorte, vous, publicains, scribes, pharisiens, vous pensez être en bonne santé spirituellement. Je ne peux rien pour vous. Alors que si vous considérez vraiment la sainteté de Dieu, automatiquement vous voyez combien vous êtes loin. Et vous allez chercher une solution, et la solution, eh bien c'est le divin médecin, c'est Christ. Voilà. Mais moi ce que je trouve beau, c'est voilà, c'est ça. Il accueille ces gens-là. Et ce qu'il y a aussi de bien, on va voir dans tout ce chapitre, jusqu'au verset 6 du chapitre 3, c'est que, en fait, le Seigneur, ce qu'il met en avant, c'est que c'est le cœur de chacun qui doit être touché. Alors que les pharisiens et les scribes, c'est surtout l'apparence. Et je vous avais mis ici, en sixième point, le service véritable en contraste avec la religion de façade. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va remarquer, où Jésus, il met en avant, voilà, c'est le cœur qui est touché. Et il le dira plus tard, hein, en parlant notamment des sépulcres blanchis qui sont pleins d'ossements, etc. Mais voilà, il va vraiment mettre ça en avant. Il commence par le mettre ici, en avant. Et puis, il va aussi le mettre également en avant au niveau du jeûne. Et donc, on avance et on prend donc les versets 18 à 22. Donc là encore, si quelqu'un veut les lire.
Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant de l'époux aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où les poules seront élevées, alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirerait sur la pièce. Et personne ne met d'un nouveau dans le vieux habit. Autrement, ils vinteront sur les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves.
Ah, merci. Alors, juste, vous savez que dans la loi, finalement, il y a peu de commandements concernant le jeûne. Quand on prend l'Ancien Testament, il y a donc dans Lévitique, au chapitre 16, il nous est parlé d'humilier son âme, et donc beaucoup le comprennent comme étant le jeûne. Mais par contre, le jeûne nous en est parlé à de nombreuses reprises ailleurs dans l'Ancien Testament, en particulier dans Zacharie. Zacharie va en parler à plusieurs reprises, mais souvent, ça va être justement pour mettre en contraste l'attitude, l'apparence et la réalité dans le cœur. Dans Zacharie chapitre 7, verset 5, « Est-ce pour moi que vous jeûnez ?» C'est Dieu qui pose la question à ceux qui sont en train de jeûner. Et si on prend le contexte, en fait, l'origine de ce jeûne-là, c'était la mort d'un homme qui avait été nommé par Nebuchadnezzar. Donc voilà, la réponse, on l'avait aussi. Mais même dans le chapitre 8, il y a aussi cette question qui va être mise en avant aussi, avec la différence entre le cœur, finalement, qui n'est pas touché, et puis tout ce qui est fait ainsi. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 4, il faudrait prendre même tout le chapitre 58, presque, où il y a cette question qui est posée, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir. Et dans le contexte, c'est voilà, vous vous disputez, vous vous querellez, vous tapez du poing sur la table et vous jeûnez en parallèle. Ça sert à quoi, en quelque sorte? Voilà ce que Dieu va dire. Et puis, Matthieu chapitre 6, verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Donc là, voilà, encore, ils dénoncent, finalement, voilà, les hypocrites qui jeûnaient, ils voulaient vraiment faire savoir qu'ils étaient en train de jeûner, donc oh, ils avaient un visage tout défait, et ailleurs même, c'est quand tu pries, ne prie pas au coin des rues, etc. Et voilà, donc tout ce qui était fait pour finalement avoir l'éloge du peuple, et à quoi ça servait de jeûner, finalement, dans ces conditions-là. Et c'est ce que Jésus veut mettre en avant, ici. Et il va le faire vraiment avec un enseignement. Et il va dire, je vais trop loin. Juste, je voudrais vous dire aussi, dans Matthieu chapitre 11, versets 18 et 19, il y a aussi ce contraste qui est donné. Jésus va dire, mais voilà, Jean-Baptiste est venu jeûnant, et... je ne m'en rappelle plus, ne jeûnant, ni ne mangeant, ni ne buvant. Voilà. Donc il jeûnait, et puis il ne buvait pas d'alcool, etc. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant, ni ne buvant, et vous dites, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Donc là encore, voilà, Jésus il met un petit peu en avant l'hypocrisie de ceux qui viennent le voir, et qui pose cette question qui n'est pas neutre. C'est une question là qui paraît comme cela, pourquoi, mais quelque part c'est pas neutre, et au fond il y a une accusation. En tout cas, peut-être pas au niveau des disciples de Jean-Baptiste, mais au niveau des scribes et des pharisiens, il y a quand même une application qui est là. Et Jésus va leur dire, ben voilà, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux. Lorsque l'époux leur sera enlevé, c'est-à-dire lorsque Jésus aura été crucifié, alors ils jeûneront. Et en disant cela aussi, il va également mettre en avant sa divinité. Parce que dans la parole de Dieu, dans Ésaïe au chapitre 54, verset 5, c'est Dieu qui est appelé l'époux de son peuple. Et vous voyez, Jésus reprend aussi ce terme, et quelque part il annonce à ceux qui connaissent bien les textes que, oui, effectivement, il est Dieu. Alors, on va continuer, donc on va arriver maintenant à la dernière partie, le service véritable en contraste avec la religion de façade. Et là, on va voir que Jésus est maître du sabbat. Et là encore, le sabbat était pris vraiment juste pour la façade. Et on va lire du verset 23 du chapitre 2 jusqu'au verset 6 du chapitre 3.
Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le Jourdain et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. » Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir.
Voilà, donc les pharisiens, on voit qu'ils sont là en train d'épier, moi je les ai mis, j'imagine, presque avec des jumelles en train de regarder, et ça y est, ils font quelque chose qu'il ne faut pas, voilà, hein. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans le psaume 56, versets 6 et 7, hein, ils complotent, ils épient. Et quand on lit ce texte, on voit que vraiment, hein, on a l'impression de voir la description des scribes et des pharisiens qui sont là, hein, pour vraiment, à tout prix, essayer d'accuser Jésus, d'accuser ses disciples avec comme objectif, bien sûr, bien aussi, premièrement de condamner, bien sûr, mais quelque part de se glorifier, parce que quand on condamne l'autre, là, comme ça, hein, voilà ce qu'il fait, hein, voilà. Ça veut dire, mais moi je ne le fais pas, hein. Moi je suis quand même quelqu'un de bien, et donc là il y a quand même aussi une déconnexion entre la réalité de leur cœur, vraiment, et puis leur attitude. Et d'ailleurs ça me fait penser hein, vraiment à cet épisode de Jésus, lorsqu'il y a ce pharisien qui prie, ou ce scribe, et qui dit « Je te remercie Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, hein. Et je fais ça, ça, ça et ça, et puis il fait tout l'étalage de tout ce qu'il peut faire ». Et on est un petit peu là dans cette configuration. Et vous savez, ça peut être un piège pour nous aussi, de toute façon. Et on a vraiment à David prier, un sondement au Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien on a aussi à prendre pour nous cette prière. Et en fait, il prenait les textes et puis il les traduisait de façon totalement excessive, parce que finalement prendre juste des épis pour les manger, pour eux ça revenait à moissonner en quelque sorte, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de totalement excessif et à l'opposé finalement de la liberté que nous avons dans la grâce du Seigneur Jésus. Et vous voyez, ça peut être encore un piège encore aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle le légalisme. Voilà, se faire des lois, hein, et ça peut être dans n'importe quel sens, et c'est un piège pour nous, premièrement, mais malheureusement ça peut être aussi un piège avec un fardeau que nous allons faire peser sur nos frères et sœurs, et on peut le traduire de plein de manières, hein, cela, hein, je sais pas moi, hein, je dis, oh là là, toi, c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux courts. Et toi, t'as combien de fonds de centimètres tes cheveux, c'est pas bon. Ou tu portes des boucles d'oreilles, qu'est-ce que c'est ça? Tu te pares d'or. Toi, t'as la télévision, mais t'es un chrétien qui a la télévision. Et on peut le décliner, mais dans plein de domaines. Alors que nous avons une parfaite liberté en Christ. Et que cette liberté, cette vie du Seigneur en nous, eh bien, va nous pousser à agir pour lui plaire. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur de pierre qui a été ôté, et c'est un cœur de chair qui a été mis en nous. Et c'est ça qui est notre motivation. C'est pas toute une cascade de choses, tu dois faire ça, tu dois pas faire ceci. Et là, quand on tombe dans ce piège, eh bien, on tombe dans l'esclavage de la loi. Et Paul va en parler avec les Galates, hein, à maintes et maintes reprises, de façon vraiment détaillée. Mais c'est vraiment un piège pour nous aussi. Ne pensons pas que les scribes et les pharisiens étaient des gens totalement différents. Finalement, ils étaient de chair comme nous. Hein. Et donc, ça peut être aussi un piège pour nous. Et en fait, Jésus va leur poser une question. N'avez-vous pas lu ce que dit l'Écriture? Et eux qui se vantaient de connaître les Écritures, eh bien, bien sûr, là, déjà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas dû apprécier. Et puis, il va citer un épisode donc que nous trouvons dans 1 Samuel, au chapitre 21, où donc David avec ses hommes vont manger des pains qui avaient été ôtés pour être remplacés par des pains beaucoup plus frais, et donc le sacrificateur va leur donner ces pains qui normalement étaient destinés que au sacrificateur. Mais en fait, Jésus va employer ici un mot qui est important, il va parler de nécessité. Et il va démontrer que finalement, la loi, elle est pour l'homme. La loi est vraiment pour l'homme. Et le sabbat, il va dire, mais le sabbat, il est vraiment pour l'homme. Et vous êtes en train de faire l'inverse. Donc, vous retournez finalement la perspective divine lorsqu'il a mis en place la loi, lorsqu'il a mis le sabbat. Le sabbat, il est vraiment pour l'homme lui-même. Et ce n'est pas l'inverse qui est à retenir. Le sabbat, c'est une grâce, ce n'est pas un fardeau. C'est une grâce, vraiment. Et il va donc déclarer, bien, le Fils de l'homme et maître du sabbat. Et là encore, il déclare sa divinité. Et la tournure du texte, versets 27 et 28, montre vraiment que, même sur le sabbat, le Fils de l'homme est souverain. Même là-dessus, le Fils de l'homme est souverain. Et donc voilà, il montre qu'il est au-dessus. Voilà, et qu'il est maître même du sabbat, maître de la loi. Et la question qu'il va poser, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? C'est une question qui est... voilà, on peut s'interroger, parce qu'on peut se dire, oui, mais bon, s'il avait guéri cet homme le lendemain, ça ne changeait rien, finalement. La vie de cet homme n'était pas menacé. Donc pourquoi il va le guérir juste le jour du sabbat? On peut se poser la question. La question qui est posée, ce n'est pas au point de vue légalité, mais c'est plutôt vraiment la question au point de vue moral. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bien? Et il va rajouter, est-ce qu'on peut faire du mal le jour du sabbat? Et c'est une question qui aurait dû interroger les scribes et les pharisiens. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on a lu? Ils sont sortis et ils ont comploté. Et là, ils ne se sont pas posé la question, est-il permis de comploter le jour du sabbat, hein? Et ça ne leur est même pas venu à l'esprit. Et ça nous montre finalement que voilà où peut mener l'endurcissement du cœur. Parce que quand Jésus leur pose cette question, qu'est-ce qu'il fait? Il leur tend la main encore. En posant cette question, il tend la main à ces personnes pour leur dire, voilà, réfléchissez. Et il le fait vraiment de la bonne façon, parce que poser une question, c'est vraiment permettre à la personne de s'interroger, de réfléchir, de se positionner. En pédagogie, c'est ce qu'il faut faire. Et là, vraiment, le Seigneur, c'est un pédagogue extraordinaire. Il pose la question, mais au lieu de se poser, de réfléchir, eh bien, l'endurcissement les conduit eh bien, finalement à comploter et à vouloir la mort de Jésus. Et regardez ce qui est précisé, et je m'arrête ensuite. Il nous est dit que les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens. Les Hérodiens, c'était des partisans d'Hérode. Et en général, il y avait inimitié entre les pharisiens et les Hérodiens. Et là, ils se retrouvent, par contre, pour une mauvaise raison, ils vont se retrouver. C'est un petit peu lorsque Pilate et Hérode, lors du procès de Jésus, vont devenir amis d'ennemis qu'ils étaient. On a un petit peu la même chose. Et vraiment, on voit que, quel drame lorsque le Seigneur nous parle et qu'on refuse. Et qu'on refuse d'écouter, et qu'on refuse d'écouter. Et ça conduit à l'endurcissement. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous amène toujours plus loin de lui. Et ça aussi, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est important de considérer, de vraiment être sensible à la voix de notre Seigneur. Parce que vous savez, même en tant que chrétien, on peut aussi parfois s'endurcir. Et le Seigneur, malheureusement, est parfois obligé d'utiliser des moyens qui ne sont pas agréables pour nous ramener vers lui. Voilà, je m'arrête là. Je voulais parler un petit peu de Jésus qui a été tenté, mais on n'aura pas le temps. Donc, les prochaines études de Dieu voulant, ça sera en octobre, les 14 et les 21. Ça sera Jean qui va officier à ce moment-là. Donc, c'est la troisième fois, donc vous inquiétez pas, si vous avez marre de m'entendre, de me voir, ça y est, on va passer à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Donc on va arrêter, je vous propose donc de prier, si quelqu'un veut terminer pour clôturer ce moment-là.